Pour les soins et la toilette du nouveau-né, les laboratoires Biopharma offrent la gamme Mobi Bébé. Reconnus pour la qualité et la sécurité, les produits Mobi Bébé sont faits à base d'extraits de calendula et assurent la protection, le bien-être et la douceur du bébé au quotidien. Mobi Bébé, le meilleur de la nature pour votre bébé.
RFI est là-bas, mais aussi ici. Brazzaville, 93.2 FM.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Ces dernières années, on a vu fleurir un certain nombre de régimes promettant tous des miracles. Le régime souple, le régime ananas ou encore hyperprotéiné. C'est le cas du dernier régime en vogue, celui du docteur Ducamp, mais des médecins en dénoncent les risques. Ces régimes sont dangereux car ils peuvent entraîner des carences, mais ils ont surtout des conséquences sur le comportement alimentaire et sur le comportement émotionnel. Alors quels sont réellement ces risques? Pour quelles raisons tant de personnes adhèrent-elles à ces promesses trompeuses? Comment faire quand on est en surpoids? Quel régime entreprendre quand on sait que 2 ans après un régime, plus de 90% des personnes ont repris leur poids initial, si ce n'est plus? Alors c'est ce qu'on va voir avec mes deux invités, le docteur Gérard Appel, qui est psychiatre et psychothérapeute, le docteur Jean-Philippe Zermati, qui est médecin nutritionniste, thérapeute comportementaliste. Ils ont publié ensemble « Mensonges, régime du camp et balivernes » aux éditions Odile Jacob. Ils sont également tous deux présidents d'honneur du GRO, le groupe de recherche sur l'obésité et le surpoids. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler pour apporter votre témoignage et poser des questions au 33 1 56 40 18 22. Et on terminera cette émission en parlant d'un nouveau traitement préventif contre le paludisme.
RFI.
Docteur Apfeldorfer et docteur Zermati, bonjour.
Bonjour.
Merci
bonjour
à tous les deux d'être là pour nous alerter sur les dangers des régimes miracles. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le principe du régime Ducamp, un régime a priori hyperprotéiné, c'est ça le principe, docteur Zermati?
Oui, c'est un régime hyperprotéiné. Alors en fait, c'est un régime dans lequel on autorise en quantité illimitée un nombre relativement limité d'aliments, une centaine d'aliments, tous plutôt protéinés, et dans lequel un certain nombre de phases se succèdent. On va partir de la phase la plus restrictive pour aller vers quelque chose de moins en moins restrictif. Voilà. Schématiquement, c'est un régime qui est très inspiré de régimes qui ont connu leur âge d'or il y a une quarantaine d'années et qui depuis, bien sûr, ont été largement abandonnés par la communauté médicale.
Avec des journées, même carrément, avec que des protéines, même pas de légumes, docteur Apfeldorfer.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans le début du régime, le début du régime est très strict. Et puis ensuite, quand vous arrivez à la phase finale, à la stabilisation, le docteur Ducamp demande à ce que, une fois par semaine, pour un jour par semaine, vous renouveliez ce régime hyperprotéiné avec que des protéines, que cette centaine d'aliments, pour vous rappeler finalement de rester dans le bon chemin.
Alors, pourquoi vous dénoncez ce régime? Qu'est-ce qui vous gêne?
D'abord parce qu'il fallait le faire.
Vous n'êtes pas les seuls, d'ailleurs.
Non, alors on n'est pas du tout les seuls à dénoncer ce régime. Nous, on dénonce d'ailleurs tous les régimes, pas seulement celui-là. Mais celui-là est un peu emblématique parce qu'il concerne beaucoup plus de monde que d'autres régimes et parce qu'il est beaucoup plus restrictif que tous les autres régimes prescrits à l'heure actuelle, et donc il va occasionner beaucoup plus de troubles que les autres. Aujourd'hui, on voit beaucoup de patients qui ont suivi ce régime et qui en ont subi les conséquences négatives. Donc on les recueille, si je peux dire, vraiment dans nos cabinets, sur les sites de soutien qu'on a aussi. Dans nos discussions avec les confrères, on a les mêmes échanges. Donc on a une population, je dirais que, je ne sais pas si le mot de désastre sanitaire peut être employé, tant l'ampleur est importante, mais on a une population qui est vraiment en danger, qui a beaucoup maigri et qui a beaucoup plus repris pour la plupart, pas la totalité. Il y a toujours des gens qui passent à travers les mailles du filet et qui ont un comportement alimentaire complètement détruit, avec des complications psychologiques, des conséquences, en tout cas, qui se sont généralement aggravées.
Et de façon très concrète, ça se manifeste comment, docteur Apfeldorfer ?
D'abord, il y a des troubles du comportement alimentaire. Les gens ne savent plus manger, ne savent plus écouter leurs sensations alimentaires. Ils oscillent souvent entre des périodes de contrôle, donc voilà, je tiens le régime, et puis des moments où ils perdent le contrôle. Là, ils ont des compulsions alimentaires, des boulimies. Donc cette sensation d'avoir perdu le contrôle des choses est souvent très douloureuse, d'autant plus que ça s'accompagne d'une reprise de poids, et souvent une reprise de poids plus importante que le poids perdu. Et donc, il y a une perte de l'estime de soi, parce que finalement, l'idée que les gens en retirent, c'est « j'ai maigri grâce au régime du camp, mais si je reprends, c'est de ma faute, c'est moi qui ne suis pas capable, c'est moi qui ne vaut rien », donc vraiment une perte de l'estime de soi, et souvent un état de dépression qui en résulte.
Oui, docteur Zarmati.
Si je peux me permettre, en fait, la situation contrôle, perte de contrôle, c'est ce qui caractérise la plupart des personnes au régime. Mais là, c'est prescrit dans le régime. C'est-à-dire qu'on prescrit dans le régime une journée de contrôle extrêmement stricte. Donc c'est ce que le docteur Ducamp appelle le jeudi protéiné, où là les gens pendant une journée ne mangent que des protéines. Et ensuite, on leur prescrit deux repas de gala, où ce qu'on leur demande, c'est de se lâcher, c'est de manger autant qu'ils veulent. Voilà. Donc en fait, ils vont osciller régulièrement entre la restriction dure et quasiment un comportement boulimique. Mais là, c'est prescrit par le régime.
Et ce qui vous gêne aussi, et ce que vous dites dans votre livre, c'est que dans les livres du docteur Ducamp, les gros sont stigmatisés, ils sont peu motivés, faible volonté, c'est ce qui est dit.
Alors,
vous reprenez des passages.
Hein, ce sont des citations. Donc le docteur Ducamp a une piètre estime des gens gros. Il leur dit que, d'abord, s'ils sont gros, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils ils mangent trop, parce qu'ils sont trop faibles et trop malheureux. C'est son point de vue. Et il considère que ces personnes n'ont pas de volonté, qu'elles sont immatures, qu'elles sont incapables de prendre des décisions par elles-mêmes. Il pense que, pour les sortir d'affaires, il leur faut une autorité extérieure. Évidemment, c'est lui. Une volonté supérieure à la leur. Et que bien sûr, tant qu'elles suivront cette volonté extérieure, elles pourront s'en sortir. Mais dès qu'elles abandonneront, si elles abandonnent, elles n'auront évidemment à s'en prendre qu'à elles-mêmes.
Docteur Apfeldorfer, vous parlez même de gourou hein, dans votre livre.
Oui, parce que finalement, ce mécanisme de dire aux gens vous êtes faible, vous n'avez pas de volonté. Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ne vaut rien. On est dans un système quasiment sectaire. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est la phase de lavage de cerveau. Hein. Vous ne valez rien, vous n'avez aucune valeur. Tout ce que vous faites, c'est zéro. Et ensuite, un deuxième temps de reconstruction selon les valeurs du docteur Ducamp. Donc, appuyez-vous sur moi. Moi, j'ai la volonté et j'en aurai pour vous. Et tout ce que vous arriverez à faire et votre amaigrissement, vous me le devrez, puisque c'est moi qui ai la puissance, qui ai la force pour pouvoir vous conduire là où il faut aller. Et ça, vraiment, si vous voulez, c'est un mécanisme sectaire.
Aujourd'hui, nous parlons des régimes et surtout des dangers des régimes avec le docteur Zermati et le docteur Apfeldorfer. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Iman. Il a la trentaine, il travaille dans le développement informatique. Depuis plusieurs années, il fait le yo-yo avec son poids. À 20 ans, le McDo était un peu devenu son bistrot de quartier. Après avoir atteint 109 kilos pour 1m73, il a essayé le régime du camp. Il a repris tous les kilos perdus. Il se lance aujourd'hui dans le régime de la chrononutrition, des propos recueillis par Pauline Mocor.
De manière générale, la nourriture, c'est mon meilleur ami et mon meilleur ennemi en même temps, dans le sens où j'adore manger, mais ce que je mange se répercute très très vite sur moi, aussi bien mentalement que physiquement. C'est-à-dire que j'ai une fâcheuse tendance à grossir très vite, et ça joue incroyablement sur mon mental, quoi. Donc du coup, chaque moment où je me mets à table est un peu un challenge pour savoir ce que je vais manger, comment je vais le manger, et surtout quelles répercussions il va y avoir derrière. Donc depuis quelques années, j'ai essayé tous les régimes au monde. Je me suis créé des carences un peu partout et ouais, la moindre frite, la moindre part de pizza, etc., je le ressens comme étant vraiment un apport calorique immense et qui me fait grossir de manière quasiment instantanée. Je le vois sur la balance.
Vous vous pesez souvent ?
Oui, tous les matins depuis à peu près 4 ans. Ça m'est même déjà arrivé pendant certaines phases de régime où je me pesais 2 à 3 fois par jour.
Votre poids, ça vous stresse ?
Oui, absolument. Ouais, ouais.
Alors là, on a fini le repas qui nous a été servi. Donc vous avez fini votre onglet de bœuf. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Bah, là, je suis dans un cas un peu particulier. Je me sens plutôt bien parce que je sais ce qu'il faut que je mange. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement livré à moi-même. Le seul point positif que je vois au régime, c'est qu'au moins pendant un laps de temps, ça me réapprend à manger. J'ai encore faim, mais je me dis que quelque part c'est normal parce que c'est un régime.
Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce régime ?
Ça doit faire 1 semaine et 2 jours à peu près.
Vous avez des objectifs en termes de perte de poids ?
Ouais, quand je fais 70 kilos, je me trouve bien dans la glace. Si j'arrive à atteindre ce poids-là, je serai amplement satisfait. Mais le tout n'est pas de l'atteindre, c'est de le conserver surtout. Je suis parti de 88, là en 1 semaine et demie, j'ai perdu quasiment 2 kilos.
Est-ce que vous avez envie de maigrir ou plutôt peur de grossir ?
J'ai surtout envie de maigrir et malheureusement, et c'est peut-être ça qui me fait défaut, j'ai vraiment pas peur de grossir. Quand j'arrive au poids que je veux, en général, je me laisse aller, quoi.
Quand vous êtes plus mince, est-ce que vous avez plus confiance en vous ?
Absolument. Quand je pèse 70 kilos, j'ai une confiance en moi qui est juste incroyable. Et quand je pèse 86, donc 14 kilos de plus, c'est vraiment le monde à l'envers.
Est-ce qu'il vous est pas arrivé de vous enfermer dans cette spirale du contrôle et de vouloir maigrir de plus en plus et que ça devienne une obsession, le fait de maigrir ?
Si, ça arrivait un peu. Après, le premier régime du camp que j'ai fait, où j'ai perdu quasiment 7 kilos en 2 semaines, et j'y prenais un certain plaisir à voir que ça continuait à descendre, et vous avez atteint votre but, donc vous arrêtez tout et vous remangez n'importe comment, c'est-à-dire vous replongez dans ce délire qui est de dire la nourriture, ça va tout combler, mais en ne vous souciant plus des conséquences cette fois. Pour quelqu'un qui fait en moyenne 3 régimes par an, c'est quasiment suicidaire parce que on sait ce qui va arriver derrière. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le seul truc qui peut vraiment me satisfaire après un régime de 2 mois, c'est une bonne grosse pizza avec plein de fromage partout, quoi.
Qui vous a élevé ?
Ma mère, essentiellement ma mère. Et elle a eu tendance à toujours me laisser manger ce que je voulais. Ça a toujours été la quantité et le fait d'être toujours servi au bon moment et le fait qu'elle puisse répondre systématiquement à ma faim, etc., qui ont pris le dessus par rapport à l'éducation alimentaire de manière générale, manger à des heures précises, manger de tout, etc. Ça n'a jamais vraiment été le cas dans ma famille en tout cas.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des régimes avec le docteur Zermati et le docteur Appeldorfer qui viennent de publier « Mensonges, régime du camp et balivernes ». C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, une réaction, docteur Zermati. Je vous ai vu hocher de la tête pendant tout ce témoignage.
Ah oui, parce que franchement, c'est la situation la plus exemplaire. C'est extraordinaire. C'est lui qui aurait dû écrire ce livre. Hein.
Il a tout dit.
Il a vraiment tout dit. Alors, il faut reprendre, mais il commence par expliquer le désarroi dans lequel il se trouve à la nourriture. C'est-à-dire qu'il a fait tant de régimes dans sa vie qu'il ne sait plus comment manger, il ne sait plus ce qu'il doit manger, et le moindre aliment qu'il met dans la bouche le remplit de désarroi, l'angoisse terriblement, lui donne l'impression qu'il a fait une chose terrible quand il a mangé une seule frite. Et donc, cette anxiété, on la retrouve chez tous les patients qui ont fait ces parcours-là. Et ce qui va les rassurer, et c'est ce qu'il dit, c'est que quand il fait un régime, il a l'impression de réapprendre à manger. Et c'est faux. C'est ça le piège. Il réapprend rien. C'est que simplement, le régime le délivre de ses interrogations et de ses incertitudes. On lui dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut manger. Et tant que vous êtes dans le plan, il a l'impression qu'il a plus de questions à se poser, puisque les questions sont... C'est le régime qui répond aux questions. Et en fait, apprendre à manger, on voit que lui, il est en quête de repères, que pour ses repères, il va les chercher dans des régimes, et que les vrais repères sont pas là. Les vrais repères sont à l'intérieur de soi. Les vrais repères, c'est la sensation de faim et de satiété qui vous dit ce que vous devez manger. Et ça, il ne le retrouvera jamais dans un régime.
Et le problème, docteur Appeldorfer, c'est qu'en fait, surtout, on ne peut pas se contrôler toute sa vie à tout moment. Or, le régime, c'est du contrôle.
Oui, bien sûr. Et on est dans cette société où on vous préconise le contrôle de son comportement. On est dans des sociétés aujourd'hui où il faut savoir contrôler ce qu'on fait. Et puis le contrôle de ses émotions, là aussi, c'est quelque chose, c'est une exigence sociale. Là, finalement, on est en échec par rapport au contrôle. Donc se contrôler en permanence est quelque chose d'extrêmement fatigant, qui nécessite beaucoup d'énergie. Et il y a toujours un moment, finalement, où on va perdre ce contrôle. Et donc les gens qui font des régimes sont tout le temps en train d'osciller entre « je contrôle, je perds le contrôle ». Alors nous, par contre, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est quelque chose de différent, c'est l'écoute. C'est « j'écoute mes émotions ».
Justement, on va prendre les auditeurs en ligne qui ont quelques conseils à vous demander là-dessus. Les gens, qu'est-ce que vous dites là?
C'est une petite. Un débat scientifique.
on a Abdoulaye qui nous appelle de Maputo au Mozambique. Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Claire.
Nous vous écoutons. Parlez bien fort parce que la ligne n'a pas l'air très très bonne.
Ok, bonjour Claire, bonjour au docteur, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Au fait, mon problème est que j'ai actuellement 100 kilos. J'ai commencé à faire un régime